Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1.
14h-15h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, un géant aujourd'hui, ça arrive. Philippe Djian vient nous parler de son nouveau roman, Double Nelson, c'est une prise de catch, au propre comme au figuré. Ensuite, visite de bibliothèque bien sûr, chez un ministre, carrément celui de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Nous partirons à Vaucresson, voir ce qu'Anne Burzinski a en rayon, et puis littérature jeunesse avec une nouvelle venue, Héloïse Goy. Mais d'abord, c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. C'est comme un groupe de rock qu'on aime bien. Quand il sort un nouvel album, il y a quelque chose d'inédit et en même temps de très familier. On est avec des amis. Et bien, pour Philippe Djian, c'est un peu pareil. Un paragraphe et on reprend tout de suite le rythme qu'on avait laissé au précédent roman. Il revient avec Double Nelson, toujours chez Flammarion. Bonjour Philippe Djian.
Bonjour.
Double Nelson, c'est l'histoire de Luc. Il est écrivain, mais il a du mal avec l'écriture de son roman. Il a surtout du mal avec la rupture qu'il vient de vivre. Il faut dire qu'il n'est pas très fin. Il a laissé un post-it sur le miroir pour rompre. Forcément, Edith, c'est son nom, l'a un peu mal pris. Et puis Edith, il ne faut pas trop l'emmerder. Elle a une profession un peu particulière, Philippe Djian. Et leur rencontre aussi s'était passée déjà dans la douleur.
Oui, ça commence par la rupture, en fait. Par une rupture, parce qu'après, il va se passer d'autres choses. C'est une histoire d'amour en même temps, ou plutôt d'essayer de comprendre comment des gens, malgré tout, essayent de vivre ensemble, parce qu'ils ont l'impression que tout n'a pas été résolu. Donc, c'est toujours cette histoire de mettre des gens ordinaires dans des situations extraordinaires. Et les situations extraordinaires, quand il y en a une qui fait partie des forces spéciales et l'autre qui est dans son bureau à écrire, on imagine que...
Voilà, parce qu'elle fait partie des forces spéciales. Et quand ils se sont rencontrés, elle lui a littéralement sauté dessus parce qu'elle l'a pris pour un autre.
Ouais, c'est un espèce de cafouillis qui s'est passé au niveau de ses services. Et c'est là où on me dit, mais c'est invraisemblable, votre histoire, c'est pas possible qu'il se trompe à ce point-là. Mais je pense que si, quand même. Ils peuvent faire des grosses erreurs.
On évacue la définition des termes tout de suite. Qu'est-ce qu'un double Nelson, Philippe Djian?
Un double Nelson, c'est une prise de soumission dans le catch qui oblige l'adversaire à abandonner. C'est-à-dire que c'est plutôt sympa quand même. C'est pas un truc de boxe où il y a du sang partout. C'est simplement...
On tape sur le bras en disant...
On tape ou par terre ou sur le sol, si on est par terre en plus. Et ça veut dire on arrête, ok, je suis soumis.
Et ça, c'est votre vision de l'amour?
C'est pas la vision de l'amour. La vision de l'amour qui, j'espère, ressort de ce livre, c'est que c'est comme un ballet. Un ballet un peu monstrueux, mais qui n'est pas méchant quand même. Sauf, évidemment, il y a toujours les extrêmes. Mais en théorie, j'ai l'impression que dans un couple, il y a toujours cette histoire de qui prend le pouvoir. Et ça, c'est naturel. Les deux personnages d'un couple, à mon avis, ont envie de prendre le pouvoir.
Y compris à tour de rôle, d'ailleurs. Parce qu'on peut changer la prise, se débattre, refaire le double Nelson sur l'autre.
C'est un truc que... je vais vous le dire. En fait, au départ, je me pensais que savoir qui employait le double Nelson sur l'autre. Et à la fin, je ne sais plus trop qui, en fait. Ouais. Et c'est ça qui m'a amusé en même temps. Parce qu'on a toujours l'impression de prendre le pouvoir. Et si l'autre est plus malin, on voit que c'est passé dans d'autres mains, le pouvoir.
En fait, on va parler de l'intrigue, il y a de l'action et tout. Mais c'est d'abord un grand roman de rupture. Avec une idée, peut-être, c'est que l'amour commence après la rupture, éventuellement.
Oui, parce que je pense que l'amour, quand il fonctionne bien, il marche aussi avec la réflexion, de savoir ce qu'on a vécu, où on s'est trompé, là où on aurait pu faire un peu mieux. Et la passion, au début, mon camarade Bec Bédel avait écrit un roman qui disait « L'amour dure 3 ans ». Donc vivre 10 ans ou 15 ans avec une personne, c'est pas naturel. Donc il faut qu'il y ait des éléments qui fassent que dans une société, on arrive à vivre avec d'autres. Mais normalement, au bout de 3 ans, non, c'est durable.
Il faut qu'il y ait des ruptures, en fait.
Oui, a priori, oui.
Et vous dites ça, vous êtes avec la même femme depuis 50 ans.
Quand on me dit ça, je me dis, comment, quelle la même femme? Moi, j'ai eu plein de femmes différentes dans la même. Et c'est pas la même à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Donc,
c'est ça le secret.
L'expérience aidant, et ça fait bénéficier un peu ces gens qui essayent de vivre ensemble quand ils se connaissent un peu mieux quand même.
Alors, on sait que pour écrire un roman, vous avez besoin d'une première phrase qui tourne dans votre tête. Mais pour l'intrigue elle-même, pour ce côté la femme des forces spéciales et tout, quel a été le déclencheur?
Je pense que c'est une lecture. Je suis tombé sur un article dans je ne sais plus quel magazine où une femme avait été introduite dans ce fameux cercle très particulier des forces spéciales, et les types, qui étaient tous plutôt, plus ou moins des gars assez balèzes, disaient qu'évidemment, dans un bras de fer, on a des chances d'être supérieurs, mais au niveau du mental, elles les battaient tous. Et ils avaient la mâchoire qui se décrochait en disant « waouh ». Parce que quand il fallait faire des marches de 40 km sous la pluie, dans la boue et tout, les hommes, au bout de 30 km, en avaient marre. Et elle, elle en avait plus que marre, elle était blessée, elle était malheureuse, mais elle a continué, elle est arrivée avant. Donc il y a une espèce de respect qui se met en place et qui est difficile à gagner, parce qu'à mon avis, pour être femme, qui dirige en même temps des commandos dans les forces spéciales, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de respect qui se mette en place, et ce respect, il est là. Quel est celui qui, mentalement, résiste?
Et vous vous êtes dit, je vais la mettre en couple. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus opposé à une commando des forces spéciales qu'à un écrivain laborieux?
C'est ça, les situations extraordinaires. Que, a priori, ça n'arrive pas, ce genre de choses. Mais c'est là où ça devient amusant. Et c'est là où... C'est toujours dans les situations extraordinaires que les gens se révèlent. Par exemple, on voit que pendant les guerres, ceux qui étaient les grandes gueules avant que la guerre se déclenche, ce n'est pas ceux forcément qui deviennent des résistants. Et ça devient souvent des collabos. Donc c'est ça aussi l'idée que... Il faut mettre les gens dans des situations où ils se révèlent.
Et alors justement, vous en créez une nouvelle de situation, parce que bon, il y a déjà cette situation de départ qui n'est pas banale, mais en plus, donc ils ont rompu. Luc essaye de digérer la rupture, mais c'est un peu dur. Elle lui manque, et parfois non, enfin bref. Il se dit qu'il va serrer les dents un peu et que ça passera comme toutes les ruptures. Sauf qu'un jour, elle débarque, elle est blessée, elle lui demande de l'aider et surtout de la cacher et de ne pas appeler la police ni un hôpital ou quoi que ce soit.
Je vais vous faire un aveu. Vous voulez bien que je fasse un
aveu?
Ce truc-là me vient de ce que j'avais lu sur John Ford, tourné un western, et qui à un moment se disait, j'ai vraiment envie là qu'il y ait le corbillard avec les chevaux qui traversent la grande rue et que tout le monde sorte du bar et tout ça pour l'avoir passé. Et le scénariste s'est dit, mais attends, mais t'es complètement fou. Comment veux-tu que j'accroche ça dans l'histoire qu'on est en train de filmer depuis plusieurs semaines? Il lui dit, j'en ai rien à foutre, je vais tourner ça et à toi de te débrouiller et on va se débrouiller pour inclure cette scène dans l'histoire. Donc voilà, moi, cette scène-là m'amusait. Je me suis dit, j'ai envie que le type, quand il est en train d'écrire, il pense qu'il est seul et il entend une espèce de glissement bizarre en bas. Alors il descend voir ce qui se passe et c'est là, elle est en même temps dans une tenue d'homme grenouille. Donc je me suis dit, comment je vais arriver à faire rentrer dans l'histoire que la femme, la scène m'amusait tellement que j'ai dit, j'y vais. Et c'est là qu'il y a des gens qui disent « mais c'est invraisemblable, ok ?» C'est invraisemblable.
Bah, c'est un roman c'est en, même temps. Bah, en même temps. On ne s'attend pas non plus à une tellement... autofiction.
Oui, non, mais il y a tellement de gens qui veulent, quand ils prennent un livre, retrouver le monde qu'ils connaissent plus ou moins, sinon ils sont perdus. Ils ne veulent pas admettre qu'il y a des histoires. Mais ça me vient aussi de... Je suis assez friand des séries quand elles sont bonnes. Et je trouve que dans les séries où toutes les grands problèmes existentiels sont abordés, c'est quand même dans un cadre et dans des histoires qui sont un peu folles et à moitié dingues. Et je pense Six Feet Under, Les Sopranos, Breaking Bad. C'est ça aussi, au départ. C'est prendre des gens normaux, mais les mettre dans un endroit où ils vont avoir du mal quand même. Et c'est là où ils vont se révéler.
Mais on a un peu perdu ça, à votre avis, ce sens de la fiction. On veut absolument que ça nous ressemble, qu'on puisse se dire pendant tout le bouquin, ah oui, dans cette situation, moi aussi j'avais fait ça ou j'avais fait l'inverse.
Mais ça, c'est aussi cette idée qu'en France, on est très, même depuis le 19e, les écrivains sont très branchés sur le réalisme. Et il y avait quelqu'un que j'adore qui s'appelle Louis Harry Stevenson qui disait, mais vous êtes complètement fou avec ces histoires de vraisemblance. Aucun art ne peut concurrencer la réalité. Donc, il faut faire autrement, il faut contourner ou se débrouiller. Et là, ça m'intéresse tout d'un seul coup.
Mais on a eu Dumas, on a eu Eugène Sue, et on a laissé ça aux Américains maintenant.
En fait. Parce que pendant qu'on était en train de compter les boutons de manchette et les boutons de chemise, il y en avait un autre, Stevenson, avec Conrad, qui parlait de suspense, qui parlait de point de vue, de choses comme ça. Et nous, on dit de quoi il parle. C'était eux qui avaient raison.
Allez, chacun part dans son coin. Le deuxième round commence dans un instant. A tout de suite.
Europe 1, 14h, 15h. La voix est libre.
Nicolas Caro.
Double Nelson, c'est le titre du nouveau roman de Philippe Djian chez Flammarion. Philippe Djian toujours avec nous. L'histoire de Luc, un écrivain qui a beaucoup de mal à écrire son nouveau roman. Le roman, celui de Djian, commence par sa rupture avec Edith, membre des forces spéciales. Luc a un peu de mal à accepter la rupture. Il en parle beaucoup avec son voisin d'ailleurs, dans la même situation que lui. Et un jour, Edith débarque, blessée. Elle lui demande de l'aider de ne pas appeler la police, ni l'hôpital, ni rien. Et là, vous vous êtes aussi amusé, vous nous disiez que vous aviez envie de cette scène un peu invraisemblable, ubuesque, et totalement propre au spectacle de la fiction aussi, hein, c'est ce qui fait avancer le roman. Mais vous avez aussi voulu explorer le dilemme de... Et si un ami venait me dire qu'il a tué quelqu'un et qu'il faut se débarrasser du corps, est-ce que je l'aiderais ou pas ?
Ah bah ça, je réfléchis pas pendant des heures pour répondre. Évidemment que je l'aiderais.
Pour vous, c'est oui.
Mais oui. Non mais attendez, toutes ces histoires qui se terminent parce qu'on va voir la police parce qu'on a été violé, ou qu'on va voir la police parce qu'on a été battu, ou qu'on va voir les juges et tout ça, comme si on n'était pas capable de se débrouiller. Il y a peut-être des moyens qui sont pas plus violents, mais qui sont des moyens, ben voilà... Le gars est mort, même si on pleure et qu'on va voir le commissaire du coin, c'est pas ça qui va arranger les choses, ça va pas le ressusciter. Donc, bah voilà, votre femme, la femme que vous adorez et avec laquelle vous vivez, en plus, elle a pas tué quelqu'un pour lui prendre son portefeuille, hein, donc ça a été une bagarre qui s'est mal terminée. Bah voilà, il est mort, hein, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? On le met sous le tapis. Bah, mais pourquoi
surtout,
pas ?
Surtout, justement, il n'y a plus de roman, sinon.
C'est dommage.
On va y revenir à l'intrigue, mais je voulais faire un détour par le voisin. Et l'amitié entre les deux, une amitié un peu basée sur la déception et même l'aversion pour le genre humain, parfois le genre féminin. Ça bitch sur les femmes en buvant des bières, ça se désole plutôt et ça se parle aussi des différences hommes-femmes. Quelles sont-elles, s'il y en a ?
Attendez, avant, je vais quand même vous dire un truc sur ces deux personnages que je trouvais, mais je savais qu'il fallait que je le fasse, peu sympathique.
Luc et Marc, son voisin.
Ils sont en train de parler des femmes en disant bah là là, tu vois ce qu'elles nous font, t'as vu comment elles nous prennent. Mais ça, c'est des hommes qui parlent comme devant un comptoir de café.
Ouais.
C'est pas comme ça qu'ils sont au fond d'eux. Et donc, je sais qu'il y a des gens qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce roman où les femmes sont exploitées, les femmes sont simplement des objets et tout ça. Je dis oui, mais attendez un peu, ça va s'arranger.
Ah bah oui, et puis surtout, j'ai une citation, ils sont en train de discuter avec une bière et ils sont en train de parler de leur rupture. Ça, souvent, elles nous tiennent d'une manière ou d'une autre, au point que les pires moments s'estompent. C'est malheureux à dire, bientôt, on ne verra plus que leurs qualités.
Bah oui, parce qu'elles en ont au moins.
C'est des hommes tristes, en fait. Quoi.
Oui, mais je pense qu'ils jouent un jeu, mais je pense que les hommes font ça un petit peu, parce que ni l'une ni l'autre ne disent réellement ce qu'ils éprouvent. C'est simplement, oui, ma femme m'a quitté, mais elle ne me comprenait pas, ça n'allait pas bien et tout ça. Et en fait, non, parce que sinon, il n'y a aucune raison qu'ils recommencent avec Edith. Donc c'est parce qu'ils ne se disent pas tout. Et c'est ce que j'aime aussi dans les dialogues, dans les ateliers d'écriture, j'explique toujours qu'un dialogue, ça doit comporter des mensonges, des absences, des silences. On ne peut pas comprendre, il ne faut pas mettre ça à plat comme un scénariste qui veut que le spectateur comprenne. Un vrai dialogue, c'est des personnes qui se parlent et qui ne se disent pas tout. Et ben voilà, donc ils s'aiment bien, ils sont contents à un moment de jouer les hommes, mais quand même, c'est pas méchant ce qu'il dit, hein, parce que...
Ah
et c'est vrai que de temps en temps, les défauts disparaissent avec l'absence et qu'on se trouve en train de se dire « Est-ce que j'ai bien fait de me barrer ?»
Mais revenons à Edith. Elle est chez son ex, Luc, et la situation est dangereuse. On est dans un film américain d'espionnage, mais bon, on est quand même dans un Philippe Dian. Et là... On pourrait se dire que Luc est en panique et tout, parce qu'il a peur qu'on vienne l'attaquer, etc. Non, en fait, ces deux gros problèmes, c'est comment je vais relancer mon roman dans cette ambiance-là et comment éviter de reformer un couple avec Edith, de retomber dedans.
Oui, il essaie d'être pragmatique. Comment je fais ? Surtout, ce qui m'a amusé, c'était par exemple, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu frustrés du fait que je ne dis pas du tout ce qu'il écrit comme roman. Est-ce qu'il écrit de la poésie ? Est-ce qu'il écrit du porno ? Est-ce qu'il écrit... On ne sait pas. Sauf que c'est dur de s'y mettre. Et que ce n'est pas toujours drôle et qu'on n'a pas tout le temps envie. Et que quand on n'a pas envie et qu'il faut quand même s'y mettre, c'est compliqué.
Et il peut passer une matinée pour finir par simplement mettre un point d'interrogation dans une phrase.
Moi, je fais pas
mieux. Ce qui est
assez
ironique parce que vous ne mettez jamais de point d'interrogation dans vos romans.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est pour ça que j'essaye de supprimer les obstacles. Mais non, mais c'est vrai, mais il ne faut pas en faire non plus un truc de dingue. Mais c'est vrai qu'il m'arrive de passer ma journée, j'écris trois lignes. Ça arrive. Ce n'est pas grave, c'est normal.
Et c'est vrai que vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais vous êtes l'écrivain de la non-description, finalement. Les physiques des personnages sont esquissées, le lieu même de l'action est incertain. Vous laissez le lecteur bosser.
Oui, mais par exemple, je sais qu'à un moment, quand on m'avait posé ce genre de questions, j'avais réfléchi un petit peu et je me suis souvenu d'un seul coup d'un truc de Lars von Trier. C'était Dogville, le film avec Nicole Kidman.
Avec
le décor était dessiné par terre. Et je me suis dit, est-ce que ça m'a gêné ? Est-ce que je n'ai pas compris ce qui se passait ou quoi ? Pas du tout. Pas du tout. Quand Nicole, elle était dans l'endroit où il y avait marqué cuisine par terre et qu'elle enjambait le trait de craie et qu'elle passait dans le salon. J'avais pas besoin qu'on me donne la couleur des murs, ni de me dire qu'il y avait un frigo de telle marque qui faisait du bruit, parce qu'il y avait des glaçons à l'intérieur, et tout ça. Je peux plus faire ça. Parce que j'ai plus envie, parce que ça m'amuse pas, et que mon travail, et là, ce qui m'intéresse, c'est ailleurs. Et je sais que ça peut frustrer. Je sais, mais je peux vous dire une chose, c'est que si jamais j'écrivais, par exemple, ce roman, comme il s'écrit normalement, avec des descriptions de tout ça, il ferait le double.
Et puis, où on s'arrête, en fait.
Bah oui, c'est ça, il n'y a plus de fin. Non, bien sûr.
Mais on dit ça, mais à la fois, le flingue, on sait que c'est un Glock, et le tapis de course, on sait que c'est un F-75. Je ne sais pas si ça existe.
Moi non plus.
Mais il y a quand même...
J'ai regardé
ça, en fait,
dans Wikipédia.
Fait... Ah bon, il existe quand même.
Oui, il existe.
Mais ça fait un peu la différence, c'est-à-dire que si on veut aller voir à quoi ça ressemble, on peut toujours y aller.
Ah bah oui,
vous
ne
le décrivez
existe,
pas dans les
vrai,
détails, mais il y a le nom.
Et je me souviens qu'il y a très longtemps, un lecteur m'avait fait une remarque parce qu'il y avait encore un policier qui sortait. Alors, je ne sais plus ce que j'avais trouvé, une marque que je ne connaissais pas, mais qui était très connue. Et le type m'écrit en me disant « Mais attends, jamais la police n'est armée de tel revolver. » Donc, je ne crois pas à tout ce que vous me racontez. Et je me suis aperçu une fois que souvent, si vous dites, si vous donnez des détails très précis sur, sur quelque chose qui, sur un objet qui est présent et que vous avez raison, après, le lecteur continue à vous croire quand vous êtes un peu plus vague. Alors que si d'emblée, vous sortez la mauvaise arme et que ce n'est pas du tout ce qui fonctionne, plus rien ne fonctionne après. Donc quand vous donnez un détail, soyez très très précis. Sinon, ne donnez pas ce détail.
Et alors, je vous lis depuis longtemps quand même maintenant et je me rends compte d'un truc, c'est que, bon, on ne peut pas vraiment qualifier le genre de roman que vous écrivez, et tant mieux sans doute, mais parfois, comme celui-là, vous partez d'une sorte de polar, et puis finalement non. Ou si, vous y restez un peu, mais ça devient autre chose, ça se transforme, ouais. ça croise les genres. C'est parce que vous n'avez pas envie d'y aller ou parce qu'il y a un moment où, en fait, le polar, il vous ennuie?
Ah bah moi, je suis pas un lecteur de polar, en plus. Je lis pas de polar. Plutôt des romans noirs, des choses comme ça, ça m'intéresse plus, mais... j'ai pas envie, parce que c'est compliqué d'écrire un vrai polar, parce qu'il y a une enquête, il y a des choses qu'il faut comprendre, alors que d'un seul coup, ça me fatigue, j'ai pas envie de faire ça, et c'est pas ce qui m'intéresse. Il se trouve que mon histoire a un rapport avec le polar, parce que c'est dans une situation de polar, mais dans leur esprit, ils sont pas du tout en train de vivre un polar, ils sont en train de vivre une histoire d'amour compliquée, et c'est pour ça que ce qui m'amuse, c'est plutôt quand ils décident de revivre ensemble, et qu'avec une espèce de ruban, ils séparent la maison en deux pour surtout pas... se laisser tenter par la nature, ça m'amuse. Et dans un vrai polar, ça n'existe pas, ce genre de choses.
Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne sait pas exactement de quel roman il s'agit pour le héros. C'est-à-dire que ça peut être un polar, une histoire d'amour, et peu importe. Quoi.
Et c'est pas important, en plus, dans l'histoire. Voilà. Ce qui est important, c'était, par exemple, il se rassoit, et il avait remarqué qu'il commençait à taper sur son... à écrire, quand elle montait sur son tapis de course, et qu'il entendait le bruit du tapis de course qui se mettait en place. Et quand elle n'est pas là, il dit, il ne peut plus baisser ses mains sur les touches. Il dit, attends, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour écrire. Qu'est-ce qu'il faut en plus qu'il n'a pas? C'est elle, avec tous les problèmes que ça posait. Mais la solitude, ce n'est pas son truc.
Et surtout, finalement, le personnage le plus inquiétant, ce n'est pas du tout celui qu'on croit. C'est Michel, la nouvelle copine du voisin. On va y revenir tout de suite.
La voix est libre.
Nicolas Caro.
La voix est libre, toujours avec Philippe Djian, qui signe Double Nelson chez Flammarion. Je parlais juste avant la pause de Michel, qui est un des personnages périphériques, un peu, mais qu'est-ce qu'elle représente finalement?
C'est l'élément perturbateur, parce que sinon, mon roman, il rêve vers, il commence à trouver qu'il y a moyen de recommencer quelque chose ensemble.
Qui est la nouvelle copine du voisin Marc et qui tombe amoureuse de.
C'est une érotomane, donc c'est une vraie. Et ce qui est amusant et qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'érotomanie, il n'y a pas de sexe. Ce n'est pas une envie de posséder l'autre sexuellement. C'est simplement une situation où l'érotomane pense que l'autre est amoureux d'elle et n'ose pas le dire. La société l'empêche de dire la vérité. Mais c'est une vraie maladie, hein, c'est un truc horrible.
Je ne veux pas aller trop loin dans l'intrigue, je vais vous poser une question. Vous allez comprendre, un peu général, y a-t-il du courage quand on agit par réflexe?
Par réflexe?
Par réflexe.
Il faut du courage, oui, bien sûr aussi, il faut... Mais c'est du courage de s'accepter comme on est, de s'accepter avec ses faiblesses. Et avec... Lui, par exemple, il était parti sur une idée qu'il fallait qu'il y ait je ne sais plus comment j'appelle ça, c'est un truc un peu fou, c'est la destruction créatrice. Lui, il se dit, si je suis bien, je ne peux pas bien l'écrire. Donc, chaque fois qu'il rencontre une femme, ça se passe bien au début, il se met en situation de faire que ça ne va pas bien fonctionné. Et là, la séparation avec tous les problèmes que ça comporte fait qu'il se sent d'un seul coup apte à écrire. Sauf qu'avec Edith, ça ne marche pas. C'est ça le problème. Il a fait la même chose. Hein. Il lui a mis le post-it sur le truc en disant « ça y est, c'est fini ». Et il s'aperçoit qu'en fait, il dit « mais peut-être que j'ai fait une énorme connerie ». Et c'est la première fois qu'il dit ça. Donc, voilà, mais aussi bien cette manière de travailler qu'un personnage qui vient perturber tout, tout ça, ça fait partie un petit peu de la... C'est la matière du roman, un petit peu. Mais justement, c'est ce qui va faire évoluer les choses.
Il ne peut pas écrire quand il est bien, il ne peut pas non plus tellement écrire quand il est mal ou quand il est dérangé. Et justement, dans cette troisième séquence, on ouvre un peu la porte de la cuisine de l'écrivain pour visiter les coulisses. Et ça se tombe bien parce que dans votre roman, il en est beaucoup question, le héros, Luc, écrivain donc, souffre beaucoup quand il écrit. Et je cite, « Il allait devoir trouver le moyen de reposer ses doigts sur le clavier et accepter de souffrir. » Il remonta dans sa chambre, rouvrit son ordinateur portable et resta assis paralysé jusqu'aux alentours de midi devant l'écran éteint et aucun signe de vie de cette ordure de roman qui restait bloquée sur une phrase comme une voiture qui aurait embouti un arbre, pas le moindre tressaillement. C'est du vécu ça ou c'est complètement composé?
C'est du transposé. C'est non, j'en suis pas là, mais j'imagine que... Est-ce que ça existe ces écrivains qui à chaque fois... tirent leur fauteuil et s'assoient avec le grand sourire aux lèvres en disant « ça y est, c'est parti », il se met en maillot de corps en général et toute la nuit il va taper et il y a un truc génial qui va en sortir. C'est, enfin moi, le peu que je connaisse de la vie d'un écrivain, c'est quand même de « c'est pas toujours drôle, on n'a pas toujours envie et il faut quand même s'y mettre ».
Autre extrait, il regrettait de ne pas avoir un travail de bureau qu'il pourrait quitter à heure fixe, fermer la boutique après avoir fait ses 8 heures, mais le piège s'était refermé sur lui, écrire avait foutu sa vie en l'air. Vous y avez déjà pensé, vous, à ça, d'avoir
ouais. Si, je crois que ça a vraiment compliqué ma vie, je crois. Mais est-ce que j'aurais voulu vivre une autre vie? Je ne suis pas sûr du tout. Mais ça rend la vie compliquée pour les autres. Sauf si on vit tout seul, ce n'est pas compliqué. On se met sur une île, on écrit quand on a le temps, quand il fait beau. Mais quand on vit avec les gens, c'est cette idée d'être là sans être là. Et c'est pour ça que souvent, ça se passe très bien avec ma femme, mais m'est arrivé de lui dire à des moments... Je préférais partir le matin à 8h et rentrer le soir à 9h. Comme ça, au moins, on éviterait tous ces moments où tu me parles et que je n'entends pas. Alors déjà, je suis sourd, donc ça complique un peu l'idée. Mais comment on fait? On peut pas, je ne peux pas y arriver.
C'est quoi votre discipline d'écriture, justement? Si vous en avez une.
C'est de trouver le moment où je vais pouvoir couper mon téléphone, ne plus répondre à personne. Et puis, c'est souvent, j'écris la nuit en ce moment, mais je ne peux pas dire... que c'est que ça, puisque quand j'ai eu des enfants, enfin pas moi, mais plutôt ma femme, on a eu des enfants ensemble, quand on les a eus, je travaillais très tôt le matin pour être debout et à peu près en forme quand ils se réveillaient pour faire tout ce que font les parents pour les enfants et les bébés. Donc là, c'était décalé, mais je peux très bien écrire. Mais je pense que c'est une idée aussi d'être seul. Ça m'a aidé longtemps d'être sourd d'une oreille. Je suis sourd d'une oreille. Ça m'a aidé longtemps parce que... j'entends pas bien, j'entends les choses lointaines et tout ça, mais je voulais pas m'en passer. Je voulais pas non plus être dans un truc très silencieux. Maintenant, ça va mieux, je suis plus vieux, donc j'accepte le silence. Avant, j'avais besoin d'entendre la vie qui était un peu lointaine, si elle me dérangeait pas, cette vie. Mais sinon, j'ai pas non plus de... C'est plutôt mon éditeur qui a des volontés un peu particulières au niveau de l'écriture. Il voudrait que j'écrive tous les jours 3-4 pages pour que... Moi, j'ai pas ça.
Parce que vous n'y arrivez pas?
Si, c'est aussi le côté un petit peu polar ou livre noir, entre guillemets, ça m'aide. Parce que c'est pas simplement des gens qui sont en train de marcher en long et en large sur une plage en ayant des pensées philosophiques sur l'existence et tout ça. Donc le côté action, bizarrerie, drôlerie, ça m'aide à continuer à avancer, même si mes personnages sont à un moment où ils sont pas bien.
Vous parliez du silence. Bern Friedman et Jackie Liebezeit, mais je ne sais pas si je prononce bien, ils sont dans le roman, il y a souvent de la musique dans vos romans. Est-ce que vous écrivez avec les musiques que vous citez?
Non, pas vraiment. Mais il y a un truc assez drôle, c'est qu'il y a un type dans les blogs, qui tient pas un blog, mais qui met des commentaires dans un blog. Et ça fait plusieurs années qu'il me démolit tout le temps, à tel point que je commence à le trouver sympathique. Sauf que le dernier roman que j'ai écrit, il dit « oui, ses romans sont toujours aussi mauvais ». Mais alors, la BO, c'est une tuerie. Et j'ai dit, bah voilà. Voilà, il y a des moyens de s'entendre et de se comprendre. Si tu trouves qu'au moins mes goûts musicaux sont, te plaisent, essaye de regarder ce que j'écris, comment j'écris. Ne passe pas à côté de quelque chose, mais en même temps, s'il veut passer à côté de mes bouquins, au contraire...
Il faut surtout qu'il arrête de vous lire dans ces cas-là
aussi. Oui, c'est
aussi.
Ça. Bah oui, oui, oui.
Justement, c'est quoi votre rapport...
Mais c'est ça, il est accroché, j'aime bien l'idée.
Votre rapport aux critiques et aux succès, d'ailleurs.
Quelle est ma position?
Ouais, votre rapport, est-ce que ça vous touche encore, quelqu'un qui dit du mal d'un de vos bouquins, ou quelqu'un qui en dit du bien, ou est-ce que... Bon...
Les gens qui en disent du bien, ça me fait plaisir, mais ça me laisse complètement... Je ne sais pas quoi répondre. Ah là, votre dernier livre, merci. Incroyable et tout ça. Ah bon, bah merci, oui, merci, c'est tout ce que je peux dire. Ceux qui ne m'aiment pas, il y en a beaucoup. Souvent, ce qui se passe, c'est que... Alors, c'est peut-être ma manière de raisonner, mais je me dis, on ne parle pas du même monde, on ne vit pas les mêmes choses. Par exemple, il y avait eu un moment, un petit truc un peu rigolo, je ne sais plus comment il s'appelait, mais si, Marc Lambron, par exemple, qui parlait de, ou qui avait écrit un livre, je ne sais plus trop, sur les États-Unis, au moment où moi j'y étais. Et on ne parlait pas du tout de la même ville.
Mais oui.
Et je disais, mais qu'est-ce que vous savez de quoi il parle, en New York que je connais, ce n'est pas New York que tu as visité. Donc évidemment que pour Marc Lambron, ça peut être compliqué si je lui parle d'un New York qu'il ne connaît pas. Et pour certains lecteurs qui sont habitués à des lectures plus, pas plus tranquilles, mais plus, plus classiques et tout ça, peut-être que la vitesse ou la manière de s'exprimer, des dialogues qui ne veulent pas dire grand-chose, sinon moi je pense qu'ils veulent dire beaucoup, mais... Ils sont faits de telle manière que tout n'est pas mis à plat sur la table. Donc on dit, mais c'est quoi les dialogues là, ça, c'est mélangé avec plein de trucs. Non, j'essaye pas de leur expliquer, parce que c'est compliqué à expliquer. Je me dis tant pis, et j'essaye à chaque fois de me dire, est-ce que dans le prochain, il y aura quelque chose qui va aller... Mais il n'y aura peut-être pas de prochain, parce que faut être maso pour acheter plusieurs fois le livre d'un type qu'on n'aime pas, mais c'est comme ça.
Restez avec nous, Philippe Dian. Dans un instant, on s'invite au ministère. Nous partons visiter la bibliothèque de Jean-Michel Blanquer. À tout de suite.
La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Philippe Dian. Nous quittons momentanément le studio pour la visite de bibliothèque, celle de Jean-Michel Blanquer. Cette semaine, le ministre publie « École ouverte ». Chez Gallimard, il revient sur les fermetures des écoles pendant la crise sanitaire et explique quel est, pour lui, le sens de l'école. J'ai profité de l'occasion pour voir quels étaient ses manuels de vie à lui. Bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous en fait.
Oui, chez moi.
C'est l'appartement de fonction du ministère.
Oui.
Là, on a visité la très belle bibliothèque du ministère, mais il n'y a que des livres officiels.
C'est ça.
Mais elle est magnifique avec des coursives et tout. Mais là, on est dans votre appartement, juste à côté, un petit salon avec des livres partout. Mais j'ai remarqué avant d'allumer les micros, j'ai fait mon petit tour comme d'habitude pour essayer de voir par où on allait commencer. Et alors, c'est pas un CDI de collège, hein. C'est mal rangé. Il y a du Raymond Aron avec des romans, il y a de l'Amérique latine au milieu de livres d'histoire. Comment ça se fait ?
Ça se fait que j'ai beaucoup déménagé. Donc en fait, vous avez ici une toute petite partie de ma bibliothèque. Et ça, vous savez, quand j'ai été nommé ministre, ça se passe un peu du jour au lendemain. Donc vous aménagez du jour au lendemain. Et donc c'est un peu mes cartons de livres qui étaient là, qui sont partis. Mais l'essentiel de ma bibliothèque est dans l'endroit où j'étais précédemment. Et, là, c'est plus rangé par romans, essais, droit et Amérique latine, qui sont un peu mes centres de prédilection.
Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de livres. Comment vous les avez choisis ? Qu'est-ce qui vous motive à prendre celui-ci plutôt que celui-là ? Vous en avez besoin pour travailler, pour vivre ? C'est des romans essentiels, des livres importants aussi pour votre métier ?
Oui, moi, j'ai toujours eu besoin de vivre au milieu de mes livres. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, depuis que je suis ministre, j'ai moins l'ensemble de mes livres autour de moi. Donc ça m'a un peu gêné parfois, parce que j'aime bien aller chercher un livre parce que j'ai pensé à quelque chose, ou même quand j'écris, pour aller consulter un livre que j'ai. Donc parfois, je suis un petit peu gêné parce que je n'ai pas le livre auquel je pense sous la main. Mais sinon, ceux que j'ai là, je les ai mis notamment dans cette bibliothèque centrale, pour les avoir à portée de main si j'ai envie de le lire en entier. Donc vous voyez, par exemple, là, il y a un coin sur le côté droit là, qui sont les livres que j'ai prévu de lire ces prochains temps. Et donc il y a cette place là, avec une lampe agréable qui me permet, quand j'ai un moment tranquille, de pouvoir être assis là et de, et de commencer un livre. Donc là, j'ai mis les livres en attente, en quelque sorte. Et puis sinon, il y a des livres qui sont un peu de référence pour moi. Par exemple, vous avez tous les romans de Balzac qui sont mis les uns avec les autres, de façon à pouvoir toujours en prendre un, si je veux, ou même l'offrir à lire à un membre de ma famille ou à un ami, quand on en parle.
Justement, j'allais y venir, parce que ça, c'est magnifique. Vous avez la collection de la comédie humaine. Et c'est dans une collection où, une fois que les livres sont tous sur la tranche, on peut lire sur toute l'étagère comédie humaine qui se dessine comme ça.
Oui.
Vous êtes collectionneur aussi, vous aimez avoir l'intégralité d'une collection quand vous commencez un auteur ?
Alors, ça peut m'arriver, je ne le fais pas systématiquement. Je ne suis pas très collectionneur, je le suis un peu, mais c'est pas. J'aime beaucoup les livres, mais je ne suis pas ce qu'on peut appeler un bibliophile, très connaisseur des ouvrages anciens. Mais c'est vrai que. Pour un auteur que j'aime beaucoup, ce qui est le cas de Balzac, évidemment, avoir la totalité de l'œuvre à portée de main et la retrouver facilement l'un des romans, c'est quelque chose qui me plaît, oui.
Mais alors Balzac, qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? Pourquoi vous avez toute la collection ? Pourquoi vous le relisez régulièrement ?
Balzac, c'est évidemment un univers. Donc c'est vraiment tout un monde qui vit au travers de lui. Il y a les correspondances entre les livres, les personnages qui reviennent, et puis surtout toute cette France du 19e siècle... qui est là sous nos yeux, avec ce sens de la description, de l'analyse des comportements humains, finalement, de la part de Balzac, qui est quelque chose qui ne vieillit pas. Donc c'est extrêmement agréable. C'est un monde, un univers.
Parce que moi, j'ai lu le Père Goriot pour la première fois à l'école, en 5e ou 4e, je ne sais plus, et j'ai détesté, parce que c'était imposé. Par oui. Ma prof de français, que j'aimais beaucoup par ailleurs. Hein, mais, et puis surtout, j'avais des contrôles à faire dessus, etc. Est-ce que c'est un truc, c'est pas de la polémique politique, mmh. Moi ça m'intéresse pas trop, mais c'est juste vous pensez quelque chose au côté contre-productif parfois, éventuellement, de proposer une œuvre à un élève plutôt que de lui donner un Stephen King où il va vraiment s'amuser, un Balzac un peu ardu quand on a 13-14 ans. Est-ce qu'on peut avoir peur que ça le dégoûte de la lecture éventuellement, surtout de le mettre dans un système comme ça avec des contrôles? C'est une vraie question.
Bien sûr, c'est une vraie question. J'y ai souvent pensé, j'y ai souvent réfléchi. Je pense que qu'il y ait une part de contrainte n'est pas forcément négatif en soi. C'est-à-dire, je pense moi-même aux lectures que j'ai pu faire à cet âge, le Père Goriot d'ailleurs, elles m'ont plus ou moins plu. Mais même celles qui m'ont moins plu, a posteriori, je suis heureux de les avoir faites et elles font partie d'un bagage qui est dans ma tête et que je suis heureux d'avoir, si vous voulez. Donc je pense le fait qu'il y ait une part de contrainte ne me paraît pas forcément négatif en soi, même si, évidemment, il ne faut pas que tout soit contrainte. Et je pense qu'on doit évidemment cultiver la culture plaisir. On se rend compte, si vous voulez, qu'à l'école primaire, on réussit à cultiver le goût de la lecture des enfants, leur curiosité, et qu'ils lisent avec plaisir la plupart des ouvrages qu'on peut mettre à leur disposition, souvent sur la base du choix. Et qu'en France, comme dans le reste du monde, à partir de l'âge de 11 ans, il y a parfois, une perte du goût de la lecture, notamment chez les garçons. Et on doit être extrêmement attentif à maintenir ce goût de la lecture qu'en général, on a su susciter et renforcer à l'âge de l'école primaire. Donc ça passe aussi par la grande littérature, parfois par extrait, parfois par des ouvrages. Je pense que c'est bien de laisser le choix. Mais en tout cas, j'ai veillé en tant que ministre de l'Éducation nationale à ce que les élèves ne passent pas trop à côté des grandes œuvres, si vous voulez. Donc je ne veux pas que par... une sorte de, non pas de démagogie, mais en tout cas de facilité, on ne soit que sur des choses faciles à lire ou immédiates à comprendre, mais qu'on amène les élèves à ne pas passer à côté du grand patrimoine littéraire français et universel. C'est comme ça qu'on a remis à l'honneur certaines listes d'œuvres, notamment à l'âge du lycée. Et j'y tiens, et je pense que quand même, dans la plupart des cas, c'est synonyme de plaisir.
Il y a beaucoup, beaucoup de romans et de livres sur l'Amérique latine. D'ailleurs, sur la table basse, il y a un Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, et vous avez un tropisme avec l'Amérique latine, avec les écrivains sud-américains. Pourquoi et qu'est-ce qui vous plaît chez eux ?
Alors, j'ai un tropisme avec l'Amérique latine qui englobe un tropisme avec la littérature latino-américaine, hein, mais j'ai vécu en Colombie, j'ai ensuite beaucoup travaillé sur l'Amérique latine, j'ai consacré une partie de ma vie à cela, j'ai été directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et en tant que professeur, j'ai beaucoup étudié le droit latino-américain, qui a d'ailleurs beaucoup de cousinage avec notre droit français. C'est une région très proche de nous, en réalité, très amie de la France, peut-être une des régions du monde, voire la région du monde la plus amie de la France, qui aime tout de ce que nous sommes. Et on est tout de suite de plein pied avec l'Amérique latine. C'est à la fois très différent de ce que nous sommes et en même temps très compréhensible et très proche pour nous, quelles que soient les dimensions que l'on regarde. Je me suis beaucoup intéressé au monde amérindien, aux civilisations précolombiennes, mais aussi à la littérature latino-américaine, qui est une des plus grandes du monde, pour ne pas dire la plus grande au XXe siècle. Et donc j'ai en tout cas, évidemment, avec ma passion pour l'Amérique latine, une passion pour la littérature américaine. Et c'est vrai que Mario Vargas Llosa est pour moi un auteur majeur et en plus vivant, donc encore capable, par son dernier roman, de nous émouvoir et de nous apprendre.
Et il y a Gabriel Garcia Marquez aussi, j'imagine que vous admirez aussi. Et ils ont toujours ce côté un peu magique, légèrement magique, décalé dans leur littérature. C'est ça ce qui vous entraîne aussi, c'est ce rêve-là?
Oui, Garcia Marquez a même théorisé ça en parlant de réalisme magique. Et c'est vrai qu'ils y ont été enclins par le fait que leur société, le monde dans lequel ils ont grandi et vécu, est un monde extrêmement original, où la réalité elle-même offre tellement de prise à l'imagination et à des situations incroyables que ça a été un terreau de littérature extraordinaire. Et il y a souvent dans la littérature latino-américaine à la fois une puissance d'imagination, une puissance d'évocation, mais en même temps une simplicité qui, mariée ensemble, font quelque chose d'extraordinaire. Et on trouve ça et chez Mario Vargas Llosa et chez Garcia Marquez, ce qui fait qu'il y a toujours un petit peu une ironie qui est sous-jacente, un humour, une distance vis-à-vis de la vie. En même temps, on est de plein pied avec l'existence humaine.
Vous avez quelques livres anciens aussi, qu'on trouve chez des bouquinistes, en fait. Vous avez quel rapport à l'objet livre ?
Alors, j'ai un rapport très, très physique à l'objet livre. J'aime être dans une bibliothèque, j'aime être dans une librairie, j'aime toucher les livres. J'ai pas un rapport de vrai collectionneur, au sens où c'est pas tant le fait que le livre soit très ancien, ou j'aime pouvoir lire un livre, vous voyez, mais c'est pas forcément le considérer comme un objet de valeur en tant que tel. Mais j'ai un immense plaisir à vivre au milieu des livres et à les toucher. C'est pourquoi je pense que le livre en tant que livre de papier est précieux pour l'humanité et ne devra jamais disparaître.
On parle assez trop rarement de l'odeur des livres aussi, qui est assez importante. Les colles différentes de différents éditeurs en fonction des époques.
Ah oui, il y a évidemment des bibliothèques qu'on reconnaît à l'odeur. Moi, j'ai parfois vécu des jours entiers dans des bibliothèques et dont je connaissais par cœur l'odeur. Il m'est arrivé de m'énivrer de livres presque jusqu'à l'évanouissement. Hein. C'est tellement l'odeur est prenante et tellement elle vous emmène ailleurs.
Quand est-ce que, parce que j'imagine que vous avez un agenda de ministre, quand est-ce que vous prenez le temps de lire? Est-ce que vous imposez une discipline de lecture, par exemple?
Je lis au petit matin, essentiellement. Je me lève extrêmement tôt, donc soit parce que je vais lire des dossiers, soit parce que je vais lire un livre. Et ça me fait beaucoup de bien, vers 4 heures ou 5 heures, de lire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je vais ensuite avoir à faire toute la journée. Ça me fait une discipline de l'esprit, quoi.
Vous vous couchez tôt, moi, j'espère.
Ah, ça dépend. ça dépend.
Je vois là la biographie de Philip K. Dick par Emmanuel Carrère,
oui,
qui s'appelle Je suis vivant et vous êtes mort, qui fait référence à Ubik, où un personnage arrive devant une tombe et sur la tombe est inscrit Je suis vivant et vous êtes mort, et qui renverse comme ça les perspectives. Vous aimez la science-fiction aussi ?
Alors, je ne suis pas un spécialiste de science-fiction, mais chaque fois que j'en lis, ça me plaît. Donc, ça fait partie des domaines que je me suis fixé d'explorer davantage quand j'aurai plus de temps, mais j'aime beaucoup. Oui. Quand c'est bien fait, c'est vraiment un domaine noble, en fait.
Mais oui, parce qu'il y a un peu de mépris pour la science-fiction, comme pour le polar, comme pour certains genres, comme ça, qu'on met un peu en dehors de la littérature.
Oui.
Alors qu'il y a des chefs-d'œuvre, évidemment, aussi dans ces genres-là. Et puis,
bien sûr. Moi, si vous voulez, quand j'étais enfant, j'ai lu Barjavel, par exemple. Ravage était pour moi un livre de référence. Je ne sais pas si aujourd'hui on le rangerait dans la grande littérature, mais ce qui est certain, c'est que je considère que, d'abord, il n'y a pas de genre non noble, c'est toujours stupide de raisonner comme ça. On peut justement, même à partir de n'importe quel genre, faire de la littérature de la plus haute tenue. Et il est évident que la science-fiction, elle aussi, nous aide à penser la condition humaine.
Je vois La recherche du temps perdu aussi de Proust, là, dans une belle édition. D'ailleurs, c'est La recherche Non, pas seulement, mais il y a Proust. C'est un pilier pour vous, Proust aussi. On allait voir Bruno Le Maire, on fait très peu d'hommes politiques, mais on a vu Bruno Le Maire qui nous a récité la première page de La Recherche du Temps Perdu. Et lui, il est fou de Proust.
Et oui, c'est vrai. Proust est évidemment totalement incontournable. C'est un des plus grands du XXe siècle. On a souvent l'habitude de faire une symétrie avec Céline, mais elle n'est pas fausse, cette symétrie. Dans les deux cas, on a évidemment un univers stylistique propre et qui ouvre des chemins pour bien d'autres qui suivront. Et donc... On doit relire La Recherche à chaque moment de sa vie pour s'imprégner de ce que ce style porte, je dirais, comme ambiance et comme philosophie.
Et La Recherche est encore très présente aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle adaptation qui arrivait. Comment on explique ça, les livres éternels ?
C'est incontestablement un livre éternel. Et pourtant, il est exigeant sur le plan du style. C'est pas... toujours facile de rentrer dans Proust, notamment pour un jeune lecteur. C'est justement le mystère de la littérature, et qui n'est qu'en partie un mystère d'ailleurs, mais c'est à partir du moment où un auteur avec un tel talent a engagé tant de lui-même dans un ouvrage, le lecteur le ressent des décennies ou des siècles plus tard. Et La Recherche du Temps Perdu, ne serait-ce que par son titre d'ailleurs, dit quelque chose d'éternel sur la condition humaine. Donc je ne suis pas... surpris du fait que, même pour les jeunes publics, ça continue à fonctionner.
Comment vous expliquez qu'en France, tout le monde connaît La Recherche, tout le monde connaît Jean Valjean, Cosette, sans forcément les avoir lus ? Et c'est pas grave, mais est-ce que il y a un rapport particulier des Français à la littérature ?
Oui, évidemment, la France se confond avec sa littérature. La France a besoin de sa littérature. La France se constitue à partir de sa littérature. Nous sommes... pays littéraire par excellence, et le roman en particulier a joué un rôle décisif dans notre histoire. On voit par exemple comment au XIXe siècle, le roman est essentiel, dans la façon dont le pays se voit lui-même. Donc la littérature est forcément ce que nous avons en partage, d'où l'importance de ce qui se passe en littérature à l'école, au collège et au lycée, parce que c'est ces archétypes que l'on a au moins vus d'un peu loin en passant par l'école, on sait qu'ils existent. Tout jeune Français par l'école sait que Proust existe, sait que Victor Hugo existe et que Jean Valjean est un personnage essentiel.
Il y a un truc assez chouette que j'observe sur les réseaux sociaux et Instagram notamment, où il y a des citations comme ça, comme des mantras de vie de grands auteurs qui n'ont pas forcément été lus, mais la citation est extraite et elle devient une leçon de vie. Est-ce que vous avez comme ça, vous, des mots qui vous accompagnent, qui trotte dans votre tête de temps en temps? Vous avez cette citation de Camus ou de je ne sais pas qui.
Oui, bien sûr. J'en ai dans la tête qui, surtout, me surgissent en fonction des circonstances. De temps en temps, vous pensez aussi à des scènes de la littérature qui vous accompagnent dans certains moments.
Ce serait quelle scène de la littérature sud-américaine, par exemple, qui vous revient de temps en temps quand vous flânez comme ça et que vous pensez à des choses et d'autres, qui vous revient en tête?
Elles sont évidemment nombreuses, mais vous voyez, Vargas Llosa, justement, a écrit un livre qui s'appelle « Le poisson dans l'eau », qui est un livre qui a beaucoup compté pour moi, parce qu'il retrace à la fois ce qu'il a vécu en 1990, quand il était candidat à la présidence au Pérou. Il se trouve que je vivais en Amérique latine à ce moment-là. Et puis, où un chapitre sur deux porte davantage sur son enfance. Et donc, il intercale les deux d'une manière extrêmement talentueuse, parce qu'il est très bon pour... articuler un bon schéma narratif, Vargas Llosa. Et donc, étant maintenant dans la vie politique, certaines scènes du poisson dans l'eau me reviennent pour faire face à certaines situations.
Je vois Baudelaire là-bas qui me fait de l'œil, un gros volume sur Baudelaire.
Oui.
Qui est intéressant aussi parce qu'il a été interdit, Baudelaire. Certains de ses poèmes ont été interdits parce qu'ils étaient trop irrévérencieux, ils allaient contre la morale. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'interlire un livre? On voit qu'au Canada, on brûle des livres parce qu'ils sont, ils sont inappropriés, comme on dit. Qu'est-ce que ça vous fait de penser ça? Qu'en France, on a fait ça aussi avec des livres qu'on a mis au banc, comme ça.
Mais nous disions tout à l'heure que la France s'est construite avec la littérature. Et la littérature a contribué à construire la France pour ce combat-là aussi, qui est le combat de la liberté d'expression. Et que ce soit avec Voltaire, que ce soit avec Baudelaire ensuite... et bien d'autres auteurs, la liberté d'expression a été une conquête, et cette conquête est passée notamment par la littérature. Il est évident que dans notre ADN, il y a ce caractère sacré de la liberté d'expression qui va de pair avec le caractère sacré de la littérature. C'est pourquoi le fait de brûler des livres a quelque chose de les piétiner, a quelque chose toujours d'épouvantable et qui doit nous révulser, quel que soit le livre, parce que c'est en soi un acte sacrilège.
Est-ce qu'il y a un jour, si on vous amenait un livre vraiment subversif, le Boris Vian d'aujourd'hui, enfin le Vernon Sullivan d'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà été confronté à cette décision, à se dire ben non, ça, il faut faire quelque chose pour ce livre, au moins mettre un bandeau, au moins faire un avertissement. On a vu que Mein Kampf a été réédité récemment avec un appareil critique gigantesque. C'est une vraie question quand même, c'est pas si évident quoi. De dire bien sûr. On n'interdit pas les livres, point. Oui, mais...
Bien sûr, on doit. D'abord, il y a évidemment toujours le sujet de l'enfance et de l'adolescence, mais qui d'ailleurs aujourd'hui se pose sous des angles tout à fait nouveaux, pour lesquels le livre apparaît comme étant un sujet annexe à côté de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec les enfants qui sont confrontés, sont amenés à voir des sites pornographiques très tôt dans leur vie, des choses comme ça qui sont en réalité très, très inquiétantes. S'agissant des livres, on doit avoir évidemment l'idée que la littérature, par définition, est dangereuse, mais dans le meilleur sens de ce terme, et elle doit être vue comme telle. Et c'est précisément pour ça qu'on doit défendre la liberté d'expression.
Ben justement, c'est intéressant. Je vois Céline, la mort à crédit, et Guignol's Band. Céline, qui est un auteur qui a une vie subversive, et certains livres, d'ailleurs, très dangereux, et puis d'autres qui sont des chefs-d'œuvre absolus, on vient de retrouver des manuscrits de Céline qui avaient été cachés comme ça clandestinement et qui réapparaissent maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Comment on gère ça ?
Céline est un immense auteur. Je pense que personne ne peut prétendre le contraire. On parlait de Proust tout à l'heure et j'établissais une symétrie entre les deux. Philippe Solaire a écrit des pages entières là-dessus qui sont très justes. Et donc, on ne peut pas... On ne peut pas faire comme si ce n'était pas un génie de la littérature. Après, c'est le débat classique sur le génie et d'un côté, et puis la vie de l'auteur de l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que Céline a créé un univers, lui aussi. Il a créé un style, dont d'ailleurs beaucoup s'inspirent encore aujourd'hui. Et on ne saurait occulter ça sans perdre quelque chose.
Et les auteurs américains, on n'en a pas parlé, les grands auteurs américains, Philip Roth, Bret Easton Ellis, vous avez parlé des auteurs sud-américains, mais est-ce que vous aimez aussi la littérature des États-Unis ?
Oui, bien sûr, j'aime beaucoup. J'ai vécu aux États-Unis aussi, et j'ai évidemment lu de la littérature américaine, qui est très riche. Et en même temps, je ne suis pas un spécialiste, et je suis loin d'avoir lu tout ce qu'il faudrait avoir lu. Mais enfin, c'est vrai que Faulkner a été évidemment un éblouissement à un moment donné. Philip Roth est essentiel, je pense, a fortiori aujourd'hui, où on est confronté à cette espèce d'énorme vague qu'est la cancel culture, avec tout ce que ça signifie d'appauvrissement de la pensée, de vision manichéenne et schématique du monde. Philip Roth était le meilleur antidote de cette approche, et il l'avait vu juste très tôt. Moi-même, ayant vécu... dans une université américaine au début des années 90, j'ai vu monter ce mouvement, et je suis très sensible à ce côté dangereux pour la subtilité, et donc dangereux pour la littérature.
Un livre inoffensif, c'est peut-être pas très intéressant finalement, un livre qui ne bouscule pas, qui ne fait pas se poser des questions au moins.
Oui, bien sûr, mais par définition, un bon livre se fait poser des questions. Après, il ne faut pas chercher à être offensif pour être offensif. Je pense que d'ailleurs ceux qui font ça souvent ne réussissent pas, parce que c'est la provocation pour la provocation, en fait, n'a pas de sens non plus. Mais la littérature doit être synonyme de liberté, et les grands auteurs se meuvent en liberté sans se forcer.
C'est vous qui jouez de la guitare ? Je vois une guitare sèche dans le fond.
Non, ce sont certains de mes enfants.
Dommage, je vous aurais demandé de nous jouer un morceau. Je vois Eugène Sue, là aussi, qui est l'incarnation du roman feuilleton 19e. Et aujourd'hui, c'est les séries, finalement, qui remplacent Eugène Sue, Alexandre Dumas, enfin, qui les remplacent, je ne sais pas, mais qui copient. Est-ce que, justement, on n'a pas en France un peu laissé tomber l'intrigue, la bonne intrigue, telle les séries d'aujourd'hui, au profit du style ? Est-ce qu'on n'a pas un peu scindé les deux ? Si on a un bon style, on n'écrit pas, on raconte pas d'histoire. Si on n'a pas de style, on raconte une histoire.
il y a eu ce risque à un moment donné, avec les suites du nouveau roman et de tout ce qui se disait. Je pense qu'on est revenu de ça et qu'aujourd'hui, vous avez les deux. C'est pour ça que j'ai toujours été attaché à la littérature latino-américaine, c'est qu'elle n'a jamais perdu ce fil. Ni Garcia Marquez, ni Vargas Llosa, ni tant d'autres n'ont oublié que rien ne valait une bonne histoire et que c'était pas un signe d'intelligence que d'oublier la chair humaine qui va avec l'histoire. Donc ce risque existe, cette tendance existe, mais je pense qu'elle est... on a tourné un petit peu cette page. Quelque chose qui va avec ça, c'est un peu le nombrilisme de la littérature aussi. Trop de livres portent sur une espèce d'auto-analyse ou finalement d'autobiographie déguisée, ce qui peut parfois être réussi, mais ne peut pas résumer tout ce qu'il y a à faire en littérature. La littérature, à mes yeux, doit quand même... non seulement poser des questions, mais ouvrir les fenêtres. On doit aller vers le grand large. Alors le grand large peut être l'introspection, mais ça doit être le grand large quand même.
Dernière question, si vous choisissiez un seul livre pour le collège, si c'est vous, sans les réunions et tout ça, mais c'est une prérogative du ministre, c'est nouveau, vous choisissez, c'est vous qui donnez le livre que vont lire les quatrièmes.
Le premier homme d'Albert Camus.
Facile, ils l'ont déjà celui-là.
Ah oui, non, je cherche pas la difficulté spécialement. Je pense que ce sont des livres qui, justement, celui-ci, comme d'autres, est un livre qui est à la fois relativement simple d'approche et en même temps très profond. Donc je pense qu'ils apprendraient beaucoup avec ce livre. Mais je pourrais vous donner d'autres, je vous dirais, L'éducation sentimentale de Flaubert.
Juste, je vois une figurine de Tintin et la petite fusée rouge et à damier blanc à côté sur une petite table. Mais je ne vois pas les BD de Tintin. Vous êtes un fou de Tintin ou c'est à vos enfants ?
Non, les deux. J'aime beaucoup Tintin. Là aussi, on est dans un univers. Et Hergé est évidemment le prototype d'un très grand auteur de bande dessinée. Et là aussi, il n'y a pas un genre non noble. La bande dessinée nous offre des choses merveilleuses. Et Tintin, c'est un univers que j'adore. Je relis encore très fréquemment des albums de Tintin. Et mes enfants aussi.
Votre préféré ?
Alors, j'aime beaucoup Le Temple du Soleil, parce que c'est justement, ça se passe au Pérou, et donc après les 7 boules de cristal. C'est peut-être mon préféré, mais j'ai aussi quelques-uns pour lesquels j'ai une tendresse particulière, comme Tintin au Tibet, ou L'Oreille cassée.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
De retour en studio et je rappelle le titre du livre de Jean-Michel Blanquer, École ouverte, c'est chez Gallimard. Philippe Dian, vous êtes toujours avec nous, nous partons dans un instant dans une librairie. A tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, l'heure des libraires, direction Vaucresson chez Anne Burzinski. Bonjour Anne Burzinski.
Bonjour Nicolas.
Alors vous avez... deux romans, mais ça c'est spécial Anne Burzinski, qui parfois a envie de sortir un peu de l'actualité littéraire et qui va fouiller dans sa bibliothèque et dans sa librairie un livre qui est paru il y a quelques temps déjà, mais peu importe, vous avez envie de nous en parler et c'est tout. Donc on a Oscar Kupfan, Le procès du cochon, et puis ça c'est la rentrée littéraire, Céline Laperto, Ce qu'il nous faut de remords et d'espérance. Mais on commence par cet Oscar Kupfan, pourquoi vous êtes allé le chercher dans les rayons ?
Alors, parce qu'effectivement, il a plusieurs années déjà, il est en poche, donc ça peut être sympa aussi pour diversifier les formats. Des fois, ça nous arrange aussi de s'acheter un petit poche par-ci par-là. Et quelle poche ! C'est un livre qui est extraordinaire, c'est du vrai fond de librairie. Donc oui, j'aime bien aller chercher dans mes petits chouchous un peu plus anciens où je me dis, mais ça, c'est du conseil, ça, c'est des livres que j'aime. Et tiens, il faudrait qu'on s'en souvienne. Le procès du cochon, il y a une vraie, vraie écriture. Vous êtes en fait, ça s'ouvre sur le fait qu'un cochon a dévoré le visage d'un enfant. Donc déjà, entre guillemets, fait divers, un peu intrigant, un peu interpellant. Il faut savoir que les procès d'animaux jusqu'au 18e, ça existait vraiment. Et là, c'est typiquement dans cette veine-là, puisqu'on va avoir réellement le procès du cochon. Avec le côté tribunal, avec une espèce d'absurdité. Ce qui est génial, c'est que c'est mené de main de maître, parce que là, on a une écriture, on a des personnages, notamment la mère de l'enfant. Vous penserez à moi si vous le lisez, elle est très ambivalente, très particulière. Donc ça, c'est une complexité qui est réalisée par des vrais grands auteurs. Et du coup, le cochon lui-même, il est très ambigu. Il est potentiellement une figure, enfin je trouve, que on joue sur l'ambiguïté pour ne pas être sûr que c'est vraiment un cochon. Est-ce que c'est pas une figure humaine de marginal? Donc tout ça, c'est la maîtrise de l'œuvre et c'est ce qui fait la profondeur du texte. Et vraiment, il vaut la peine d'y revenir, d'y re-revenir. Donc si vous ne le connaissez pas, il était paru chez Grasset il y a plusieurs années et il est maintenant en poche à la Table Ronde collection La Petite Vermillon.
Le procès du cochon, donc, d'Oscar Kupfan. Et alors, rentrée littéraire quand même, chez Viviane Ami, « Ce qu'il nous faut de remords et d'espérance », c'est le titre, et l'auteur Céline Laperto.
Voilà, alors moi déjà, j'avais adoré son précédent qui s'appelle « Ce qui est monstrueux et normal ». Elle a quand même le don des titres. Enfin, je trouve que c'est à chaque fois des titres extraordinaires. Et là, alors, question courageuse. Alors, j'ai pas fait exprès, mais les deux livres sont quand même liés à la justice, finalement. Puisque celui-là, il va s'attaquer à une idée, enfin, à une réflexion de fond courageuse et pas évidente, puisqu'on va vous parler de la peine de mort, et portée par deux personnages centraux, qui sont en fait l'un garde des Sceaux et l'autre chanteur, qui a réussi, on peut dire, il est célèbre, il a son public, il est très aimé. Et le garde des Sceaux, donc un de nos deux personnages principaux, c'est une personne qui veut porter justement ce projet de loi pour rétablir la peine de mort, ce qui est de toute façon un sujet de société, ce qui l'a toujours été, c'est toujours un peu brûlant. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que Céline Laperto, elle va nous mettre face à nos contradictions. Parce que dans un premier temps, on a tous une idée là-dessus, justement, souvent un peu à brûle-pourpoint. Et là, elle va nous promener un petit peu pour nous montrer qu'on peut changer d'avis au fil du récit, parce que c'est complexe. Et les deux personnages dont je parlais, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont demi-frères, mais ils sont toujours restés au seuil de leur relation, ils n'ont pas réussi à devenir proches. Et pourtant, là, il y a vraiment quelque chose qui va faire le lien entre les deux et qui va avoir un rapport avec ce moment, le rapport à ce moment par rapport à la loi. Est-ce qu'on la vote, est-ce qu'on la vote pas? Et eux, ils vont être au centre du récit et de cette question, en fait.
Non mais le talent d'Anne Burzynski, heureusement que je ne suis pas de Vaucresson, sinon je partirais à chaque fois avec 12 bouquins. Merci beaucoup Anne, à bientôt.
Avec un grand plaisir Nicolas.
Ce qu'il nous faut de remords et d'espérance de Céline Laperto et Oscar Kupfan, Le procès du cochon. Merci beaucoup Anne.
Merci, à bientôt, merci beaucoup.
Retour en studio, toujours avec Philippe Djian pour Double Nelson chez Flammarion. C'est quoi votre rapport à la librairie, vous, et aux libraires en général ?
J'ai pas de rapport avec eux. J'ai eu des librairies qui étaient souvent des librairies de proximité. Mmh. Je courais pas à la grande librairie branchée de tel coin, ça m'intéressait pas. Je suis passé un moment, comme j'habitais un petit peu loin, tout ça, je l'avoue, et ben, j'ai pas vraiment honte, par Amazon. Souvent, c'était pratique, dès que j'avais au cours d'une lecture, une référence, je la notais et tout de suite, je disais, je le commande tout de suite. S'il avait fallu que je sorte, et que, oui, on peut toujours. C'est une faiblesse de ma part et un manque d'énergie, mais je n'ai pas de rapport particulier avec les libraires, sinon que j'avais quand même dit une chose il y a longtemps, quand j'étais jeune et plein d'allants, je disais, quand je ne me sens pas bien, je ne vais pas voir mon médecin, je vais chez mon libraire. Ils avaient même fait des affiches, ils étaient tellement contents, mais ce n'était pas une blague, hein. C'est vrai. Quand je suis malade ou quand je ne suis pas bien, je vais dans ma bibliothèque et je dis, qu'est-ce que j'ai envie de lire en ce moment? Un polar? Est-ce que j'ai envie de lire du Beckett? Est-ce que j'ai envie de lire Tolstoy? Ou est-ce que j'ai envie de lire un petit polar qui passe comme ça?
Meilleure définition. Restez avec nous, Philippe Djian. Dans un instant, on parle littérature jeunesse avec Héloïse Goy.
Il était une fois.
La Voix et Livre, dernier chapitre, et on accueille une nouvelle venue, Héloïse Goy, pour parler littérature jeunesse. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas.
Et alors aujourd'hui, je lis le titre « Un baiser qui palpite là comme une petite bête ». C'est signé Gilles Paris.
D'abord, est-ce que vous savez d'où est tiré ce titre, Nicolas ?
Non.
Eh bien, c'est un vers qu'on retrouve dans un poème d'Arthur Rimbaud qui s'appelle « Roman ». Et peut-être que vous connaissez le début parce que la formule est devenue célèbre. Je cite « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Exactement. C'est vrai qu'à cet âge-là, on n'est pas sérieux. Et ce livre, justement, il est là pour nous le rappeler parce que Gilles Paris, il nous met dans la peau de jeunes adolescents qui sont confrontés un peu à toutes leurs premières fois. Alors, les premiers amours, les premiers émois sexuels, les premières bêtises. Et ce roman, il m'a fait penser à la série américaine 13 Reasons Why, qui a été créée à partir du...
13 raisons pourquoi.
Qui a été créée à partir du roman de Jay Hatcher. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais la série, elle avait eu un vrai succès parce qu'elle parlait du harcèlement scolaire d'une jeune fille qui avait fini par mettre fin à ses jours.
Terrible.
Eh bien, ce livre de Gilles Paris démarre de la même manière. En fait, on fait très rapidement connaissance avec une jeune fille qui s'appelle Iris, qui est maltraitée à la maison, qui est maltraitée au lycée et qui finit par se suicider. Alors, heureusement, la suite est un peu plus joyeuse. Dans le lycée d'Iris, cette jeune fille, on fait connaissance avec plusieurs adolescents. On a Tom, Emma, Timothée ou encore Sarah qui font un examen de conscience parce qu'ils sont un petit peu tous responsables de la mort de cette jeune fille. Alors tous ces ados, ils ont des caractères différents, mais c'est en nouant des relations amicales et amoureuses qui vont se remettre en question et surtout qui vont apprendre à grandir ensemble et à trouver un peu mieux leur identité. Alors, comme vous le disiez au début, ce livre, il est adressé aux adolescents, oui, mais aussi un peu aux parents, parce que on n'a pas toujours le mode d'emploi de nos grands-enfants, qui ne sont pas tout à fait adultes. Et l'auteur, il propose même, à la fin, un petit lexique du langage propre à cette tranche d'âge qu'il utilise dans son livre.
Oui, je veux bien le lexique. Oui.
Bah, du coup, j'ai voulu tester votre vocabulaire d'ado, Nicolas, et je vous ai préparé un petit quiz. Est-ce que vous êtes prêts ?
Et on embrasse Samuel Etienne.
Est-ce que vous savez ce que veut dire ASKIP ? Alors, j'appelle.
ASKIP paraît.
C'est pas mal. C'est l'abréviation de ASKIP paraît. Ok.
ASKIP.
ASKIP, exactement. Le K n'a rien à faire ici, mais c'est juste pour l'abréviation. Ça rend mieux. Est-ce que vous savez ce que veut dire faire quelque chose en soum-soum ?
Pas du tout.
Alors, ça veut dire faire.
En sous-marin ?
Oui, c'est bien. Faire quelque chose en sous-marin, c'est-à-dire faire quelque chose discrètement, d'accord, un peu en secret. Et le dernier, est-ce que vous savez ce qu'est un charreau ?
Un charreau, non.
Alors, c'est la contraction de charognard et ça désigne un garçon qui court après les filles.
Ah, d'accord.
Donc, tout ça, vous l'apprendrez dans le livre.
Et en fait, vous voulez me filer un coup de vieux, quoi.
Non, pas du tout. Mais c'est normal. Vous n'avez plus 17 ans. On en a la preuve maintenant. Et donc, c'est en s'imprégnant de tout ce langage ado que l'auteur, on le connaît déjà pour Autobiographie d'une courgette, parce que le film d'animation issu de ce livre avait eu beaucoup de succès. Gilles Paris, il évoque avec pas mal de justesse des sujets aussi importants que le harcèlement, l'amour ou l'amitié dans cette tranche d'âge si particulière.
Et on rappelle le titre, Un baiser qui palpite là comme une petite bête de Gilles Paris et c'est chez Gallimard. Merci beaucoup Héloïse.
Merci Nicolas.
Et la semaine prochaine, on parlera bande dessinée et merci à vous Philippe Dion, je rappelle Double Nelson, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup.
Ah, c'est un plaisir.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour la préparation et merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée. Je vous laisse avec Didier Barbelivien pour Dis-moi ce que tu chantes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.